en action avec le développement économique et les particuliers au capital des entreprises. Depuis quelques années, le crowdfunding ou financement participatif est entré dans le vocabulaire commun. Ce nouveau mode de financement accessible à toutes les bourses n'est plus réservé à la sphère culturelle. Il fait désormais des émules dans le monde de l'entreprise. Des entrepreneurs locaux financent leurs projets par ce biais, d'autres créent des plateformes de récolte de fonds, tour d'horizon dans la métropole.
Le financement participatif, qu'est-ce que c'est ? Sur la toile, des sites internet spécialisés mettent en relation des porteurs de projets avec des investisseurs et des particuliers souhaitant investir des sommes plus ou moins conséquentes et sous diverses formes, dont prêts ou participation au capital. My Major Company, KissKissBankBank ou Ulule sont les plateformes de financement participatif les plus connues. Il en existe plus d'une vingtaine en France, dont certaines à destination des entreprises en recherche de croissance. Enerfip et MyWin PME sont deux plateformes nouvellement créées sur les territoires de Montpellier Méditerranée Métropole. La première s'est spécialisée dans les énergies renouvelables, photovoltaïque, éolien, hydraulique. Nous nous adressons à des sociétés présentant des difficultés d'accès au financement, précise Julien Ostache, cofondateur d'Enerfip. Le ticket d'entrée fixé à 100 euros permet à tous les citoyens de participer avec un double intérêt à la clé, des taux d'intérêt de 4 à 6% et la certitude de savoir à quoi servira l'argent investi. Autre création récente, MyWin PME, une société latoise qui a lancé sa plateforme en février dernier. Elle propose déjà 6 projets portés par des entreprises du Languedoc-Roussillon dans la santé, la sécurité ou encore l'immobilier neuf. Après l'étude approfondie des entreprises candidates, nous lançons des campagnes de financement comprises entre 100 000 euros et 1 million d'euros tout en conseillant nos clients afin que leur collecte soit une réussite, explique Fabrice Beyla, PDG de MyWin PME. Aujourd'hui, la finance participative est entrée dans les mœurs des entreprises. Elle est envisagée comme un complément au financement classique, levée de fonds, business angels, subventions publiques, assure Fabrice Beyla. Le don en général prisé par les jeunes entreprises et celles lançant un produit, l'augmentation de capital pour les structures plus établies en recherche de fonds propres et enfin le prêt pour les entreprises ayant atteint une certaine maturité, explique Nicolas Lesure, président de l'association Financement Participatif France. Entre 2013 et 2014, le nombre de fonds récoltés dans l'Hexagone grâce au crowdfunding a doublé pour atteindre 152 millions d'euros l'an dernier, dont plus d'un tiers en direction des entreprises. L'économie collaborative possède les germes de la nouvelle économie et permet de rediriger l'épargne vers l'économie réelle, insiste Julien Ostache d'Enerfip. Bien que ce nouvel outil de financement n'en soit qu'à ses prémices, il séduit toujours plus d'entreprises, notamment dans la métropole. Toutes les infos sur ces deux nouvelles plateformes sur internet, enerfip.fr et mywin.fr.
Et le crowdfunding en France, ce sont 64 500 projets financés depuis 2008. 44% des sommes allouées par les contributeurs sont destinées aux entreprises.
Sur cette page, deux photos, tout d'abord EcoSec avec les fondateurs de ce concepteur de toilettes sèches écologiques installé un de ses prototypes au parc zoologique de Montpellier. Et puis la campagne de financement du Goût du Bœuf a permis à l'entreprise de récolter 8000 euros pour acheter de nouveaux animaux et recruter un salarié.
Des entreprises locales ont fait appel au financement participatif comme Benjamin Clouet pour EcoSec.
C'est vital pour une jeune entreprise. En février, l'entreprise montpelliéraine a lancé sa propre campagne de financement participatif. Objectif, obtenir 12 000 euros sous forme de dons avec contrepartie. Nous disposerons ainsi de fonds propres, une base vitale pour une jeune structure et des réserves d'investissement pour acheter des machines d'atelier. C'est aussi un très bon moyen pour communiquer et mieux faire connaître nos produits, explique Benjamin Clouet, l'un des cofondateurs d'EcoSec.
Olivier Cantrel pour Calelitos.
Menait 3 projets immobiliers de front. Pionnière, Calelitos l'a été en étant l'une des premières sociétés françaises à avoir recours au crowdfunding. En 2013, le promoteur immobilier montpelliérain est parvenu à rassembler 1 800 000 euros en moins de 40 jours. Il s'agit de la plus grande somme levée via une plateforme de financement participatif en Europe. Elle nous a permis de disposer de fonds propres pour lancer 3 opérations immobilières de front dans la région, détaille Olivier Cantrel, directeur général de Calelitos.
Rémi Dubernet, créateur du Goût du Bœuf.
Doubler notre production et recruter un salarié. Pour subvenir à la demande de nos clients, nous avions besoin de doubler notre production et par conséquent de doubler notre fonds de roulement que les banques ne pouvaient pas financer, explique Rémi Dubernet, fondateur et PDG du Goût du Bœuf, une boucherie en ligne haut de gamme proposant des livraisons à domicile dans toute la France. L'entreprise installée à Saint-Jean-de-Védas s'est tournée vers le financement participatif pour récolter 8000 euros. Thank you. les pages en action de votre magazine Développement économique, attractivité des indicateurs à la hausse. Les transactions sur le marché de l'immobilier, du foncier d'entreprise repartent à la hausse. Après une très bonne année 2014 marquée par l'installation du groupe Computa Center qui va créer 300 emplois, 2015 démarre sur les chapeaux de roue. Montpellier accueille le plus grand programme de bureaux jamais vu en province sur 33 000 mètres carrés.
Trois sociétés de construction et promotion immobilière, FDI, Tissot et Vinci, se sont regroupées pour réaliser le plus important programme de bureaux jamais bâti en province, l'Asset Center. Les 33 000 mètres carrés seront occupés en 2018 pour moitié par les salariés de ces sociétés, de Nexity et du Crédit Agricole, qui y installent leurs sièges sociaux et pour moitié commercialisés. Cette importante opération de 1 200 emplois à terme s'inscrit dans une conjoncture particulièrement dynamique. Après deux années relativement stables, nous avons connu un pic historique, explique Jacques Bagui, le directeur de l'Observatoire de l'immobilier et du foncier d'entreprise de Montpellier. En 2014, 71 000 m2 de bureaux ont été placés, en hausse de 13% par rapport à 2013. Ce dynamisme se confirme également pour les locaux d'activité en hausse de 35%, ce qui représente 80 000 m2. Pour les entrepôts, en hausse de 72%, ce qui représente 39 000 m2. Et pour le foncier, en hausse de 30%, ce qui équivaut à 78 900 m2. Montpellier est aujourd'hui la 7e ville de France pour la commercialisation de bureaux et elle est passée devant Rennes, précise Caroline de Boisgelin à Bécassis, directrice de BNP Paribas Real Estate LR. Sa société a réalisé l'une des transactions la plus marquante de 2014 avec Computa Center. Ce groupe international du numérique, qui emploie 13 000 personnes dans 10 pays, a choisi Montpellier pour implanter un centre de services sur le parc de l'aéroport qui emploiera 300 personnes d'ici 2017. À Montpellier Méditerranée Métropole, ce qui nous intéresse, c'est l'emploi, rappelle Chantal Marion, vice-présidente déléguée du développement économique. Aménager des parcs d'activités, déployer le haut débit, accompagner les start-up, encourager l'innovation, prospecter à l'international, toute notre action va dans ce sens. L'autre bonne nouvelle de ce bilan est le retour de clients internationaux. Ainsi, le groupe norvégien Crayon s'implante sur le parc de l'aéroport et le groupe suédois Denux va réaliser un bâtiment tertiaire sur le parc Eureka. Montpellier reste attractive, estime Nicolas Huet, directeur de CBRE, autre opérateur du marché. Le soleil, le bien-être, l'accueil, le bon rapport qualité-prix jouent dans les décisions. Les investisseurs ont été rassurés par notre façon de conduire les affaires publiques par la mise en route de la métropole et le dynamisme de la French Tech, souligne Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier. Transition énergétique, rénovation thermique, on a tout à y gagner. Montpellier Méditerranée Métropole apporte des aides pour la rénovation thermique des logements des propriétaires très modestes. De plus, le crédit d'impôt transition énergétique pour tous les revenus est renforcé en 2015. C'est donc le moment de lancer quelques travaux pour faire baisser votre facture énergétique et gagner en confort, tout en valorisant votre bien. Et en ce soir de février, il fait 0 degré quand une vingtaine de personnes s'élancent dans les rues de Castelnau-le-Lez pour une balade thermique à la recherche des déperditions de chaleur des logements. Les habitants du quartier de Voix ont répondu à l'invitation de la mairie de Castelnau-le-Lez et de l'agence locale de l'énergie, l'ALE. Le petit groupe est équipé de 3 caméras thermiques qui détectent les écarts de température à travers les murs en les matérialisant par des couleurs. Les immeubles récents sont plutôt bleus, signe d'une bonne isolation, tandis que les plus anciens tirent vers le rouge qui révèle d'importantes fuites de chaleur. Il faut savoir que la performance énergétique des logements français est nettement moins bonne que dans la plupart des pays européens, y compris ceux qui ont des hivers plus rigoureux, comme les Pays-Bas. Dans la métropole, 59% des 6451 copropriétés privées ont été construites avant la première réglementation thermique de 1975 et la précarité énergétique touche 20% des habitants. D'où les efforts de Montpellier Méditerranée Métropole et des communes pour encourager la rénovation thermique des bâtiments bâtiments dans le cadre de son plan climat-énergie territoriale et de sa nouvelle compétence transition énergétique et maîtrise de l'énergie, confiée à Michèle Cassard, vice-présidente et maire de Pignan. Les deux tiers des dépenses énergétiques d'un logement proviennent du chauffage. Isoler, changer de chauffage ou de fenêtre, cela permet non seulement de faire baisser la facture, mais aussi de gagner en confort en mettant fin au courant d'air et à l'humidité et d'augmenter la valeur du bien, explique Nicolas Catin de l'ALE. En effet, depuis 2011, la vente d'un logement est soumise à l'obligation d'afficher sa performance énergétique, classe DPE de A à E. Les particuliers intéressés peuvent se renseigner à l'ALE et lors des permanences d'urbanisme en maison de proximité qui dispensent à la fois des conseils techniques et une information sur les nombreuses aides financières, dont celle de la métropole, sur fonds propres et par délégation de l'ANA. D'autres dispositifs existent comme les crédits d'impôt renforcés au 1er janvier dernier, la TVA réduite, l'éco-prêt à taux zéro, les certificats d'économie d'énergie, les prêts Rénov'LR et des aides de certaines communes au solaire thermique comme Pignan ou Clapiers, de quoi vous aider à financer vos travaux. Les permanences dans les maisons de proximité ont lieu à Castries les mardis de 10h30 à 12h30. Il s'agit des mardis 3, 17 et 31 mars. À Montpellier, aux Beaux-Arts, les mardis 3, 17 et 31 mars de 14h à 16h. À Pignan, les 10 et 24 mars, mardi aussi de 10h30 à 12h30. Et à Villeneuve, les Maguelones, les mardis de 14h à 16h, les mardis 10 et 24 mars. Vous pouvez retrouver toutes ces informations à l'adresse suivante www.montpellier3m.fr. Parlons d'handicap avec des ouvrages adaptés en ligne. La médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier Méditerranée Métropole est un modèle d'accessibilité depuis sa création en 2000. L'espace Homer, qui permet aux malvoyants d'accéder aux œuvres de l'écrit, en est le plus bel exemple. Aujourd'hui, c'est une vraie nouveauté. La métropole complète son offre en rendant ce service public accessible à distance. Dédié aux personnes mal et non-voyantes, l'espace Homer de la médiathèque centrale Émile Zola est équipé d'ouvrages et de matériel adapté facilitant l'accès à la lecture. Depuis 2011, la médiathèque est habilitée à reproduire et diffuser des œuvres adaptées auprès des usagers en situation de handicap. Ainsi, à la demande des personnes handicapées qui se rendent à l'espace Homer, deux bibliothécaires de ce service convertissent des ouvrages numérisés en version audio ou en braille. À partir du mois de mars, ce service public devient également accessible à distance. Il permettra de toucher un public plus large, plus mobile. Je me rends le plus souvent possible à l'espace Homer pour lire avec mes oreilles et échanger avec les bibliothécaires. Mais en habitant au Grabel, les déplacements ne sont pas toujours simples. Tout prend plus de temps quand on est une personne handicapée. Ce service à distance, disponible 24 heures sur 24, facilitera mon accès à la lecture, témoigne Chantal Devaux, administratrice de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Simple et gratuit, ce service, encore rare en France, est réservé aux personnes en situation de handicap bénéficiaires de l'exception au droit d'auteur et assure ainsi la protection des œuvres. En se connectant sur l'interface Homer du portail des médiathèques, l'internaute pourra se faire envoyer par messagerie électronique les œuvres qu'il souhaite en version adaptée. Un vaste choix de titres est rendu accessible grâce au développement du livre numérique. C'est une évolution logique de nos services pour les personnes handicapées, explique Gilles Gudin de Valerin, directeur du réseau des médiathèques. Nous avons toujours été innovants en la matière. Après avoir obtenu en 2011 le label national Bibliothèque numérique de référence, puis l'agrément pour l'édition adaptée, avec ce service à distance, nous franchissons une nouvelle étape pour proposer une égalité des services. Dans le réseau des médiathèques, tous les handicaps sont pris en compte. L'an dernier, par exemple, des boucles magnétiques ont été installées pour les personnes malentendantes. Nous mettons tout en œuvre dans nos établissements pour garantir l'épanouissement personnel de chacun d'entre nous et favoriser la diversité culturelle de tous, sans exception, précise Régine Hiller, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à la gestion des temps, à l'accessibilité, au handicap et à l'autonomie, et maire de Cournonsec. À noter que les bénéficiaires doivent posséder un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80% ou être titulaire d'une pension d'invalidité. Plus d'infos sur le site www.mediathèque.montpellier3m.fr/homer avec un H.
L'éclipse partielle fait le printemps. Le vendredi 20 mars, une éclipse solaire va se dérouler sur l'Europe en matinée. Dans la région Montpellier-Rennes, elle ne sera que partielle. Comme la prochaine n'est pas attendue avant 10 ans, profitez bien de celle-ci, mais avec du matériel adapté.
À moins d'habiter les îles Féroé ou d'avoir un billet d'avion pour l'archipel norvégien de Spitsberg, il faudra, sous nos latitudes, se contenter d'une éclipse partielle. Dans la région Montpellier-Rennes, le phénomène débutera à 9h15 pour se terminer à 11h34, avec une intensité maximale à 10h22, où 66% du soleil sera caché par la Lune. Depuis le début de l'année et jusqu'à la date de l'éclipse, le planétarium Galilée de Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place une animation hebdomadaire avec une séance le samedi à 18h30. Dans le ciel en direct, un médiateur scientifique propose aux spectateurs de découvrir l'actualité astronomique et spatiale du moment dont cette éclipse partielle de soleil. Qu'en est-il réellement de sa rareté ? La dernière éclipse totale en France date du 11 août 1999. Elle avait surtout concerné des régions comme la Normandie, la Picardie ou l'Alsace. La prochaine du même type aura lieu en 2026. Dans l'absolu, une éclipse de soleil, il y en a tous les 6 mois sur Terre en un lieu donné. Donc, si l'on voyage, on peut en voir régulièrement. Par contre, pour en apercevoir une au-dessus de notre tête, statistiquement, c'est tous les 370 ans, indique Xavier Girard, directeur adjoint du planétarium Galilée. Le samedi 14 mars, une après-midi de sensibilisation sera organisée sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier, dans le cadre de l'année internationale de la lumière, célébrée dans différents établissements culturels de la métropole. Le planétarium Galilée sera de la partie avec la faculté des sciences, les associations d'astronomie du secteur, les astronomes amateurs et leur matériel d'observation. Le jour J, soit le 20 mars, où sera également accueilli le printemps, l'observation également possible depuis l'esplanade. Il est absolument déconseillé de regarder cette éclipse sans protection sous peine de troubles graves de la vue. Le soleil doit être observé avec des instruments adaptés. À l'œil nu, il est impératif d'utiliser des filtres certifiés en millard ou polymère. Le planétarium Galilée a acheté des lunettes à destination principalement des associations et des écoles. Sa boutique en propose à la vente depuis la mi-février au prix d'1 €.
Et pour en savoir plus sur cette éclipse solaire partielle, vous allez sur planétarium-galilée.montpellier3m.fr. Vous pouvez également retrouver le programme complet de l'année internationale de la lumière sur montpellier3m.fr/année de la lumière.